Nickel.
On va monter à bord d'un navire câblié dans ce journal. On fera un point sur la mortalité routière du Fénois et puis un détour par Moréa et Papara en toute fin d'édition. Et ce journal, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Kevin, bonjour à tous.
On part en visite pour commencer.
En visite et même en immersion à bord du Lodbrog, le navire câblier arrivé dans la rade de Papété en début de semaine. Ce bâtiment de la société Optique Marine Service, à la base spécialisée dans la maintenance et la réparation de câbles, va cette fois en poser un à Titoua Sud qui, vous le savez, apportera enfin le très haut débit aux Australes d'ici quelques semaines. Rurutu et Tubuai, jusqu'à présent dépendantes du satellite pour leur connexion internet, vont être, grâce à Tessoto, cette opération de l'OPT connectée par fibre optique, une opération délicate qui implique le Lodbrog mais aussi d'autres sociétés comme Alcatel Submarine Network ou les plongeurs locaux de Tiai Moana. Les précisions de Jean-Bernard Cheviron, il est second capitaine du navire câblier.
La première opération va être de déposer le câble qu'on a à bord à terre, faire le joint à terre à la station et ensuite on va partir en pause. Donc on va poser le câble à faible vitesse. Le but de la pose est de poser et d'épouser la forme du relief. Donc on va poser le câble en épousant la forme du relief, en allant doucement, jusqu'à aller à un autre point où là on va répéter l'opération de récupérer un câble, de le poser à terre et de repartir et de le poser. Et les jonctions se font en mer.
Voilà, pour mener à bien ces opérations qui devraient s'étaler sur une quarantaine de jours, une soixantaine de personnes sont à pied d'œuvre. Une grosse machinerie qui tournera H24 avec un équipage doublé qui devra aussi s'assurer au fur et à mesure du bon fonctionnement des installations. C'est ce qu'explique Dominique Guiraud, le second d'opération du Lodbrog.
Durant toute la pause, on teste le câble en permanence pour que, au plus tôt, s'il y avait un problème de transmission du signal le long du câble, d'isolation électrique du système, eh bien, on puisse le détecter et le corriger au plus vite, pas attendre que le système soit intégralement posé pour corriger.
Et coût global de cette opération, 2,8 milliards de francs. Les équipements, eux, sont garantis 2 ans avec une maintenance préventive qui sera assurée par les équipes Donati. Le début des opérations, d'abord prévu le 17 avril, auront finalement lieu le jeudi 20 avril à Toaotu. Vigilance donc ce jour-là dans la zone de Toaotu et à la presqu'île.
Et puis du côté du port, un inventaire des épaves en cours.
Oui, nous vous parlions ce matin des inquiétudes, des explications floues et autres travaux lancés autour de l'épave du Corsair. Eh bien, cet ancien navire de la compagnie Aremiti, dont on ne sait pas s'il a été vendu ou pas avant de couler et de polluer la zone, n'est pas le seul à se trouver au fond du port de Papeete. C'est ce qu'a rappelé la FAPE dans son courrier qui dénonçait le manque de transparence de l'établissement gestionnaire sur le sujet. Parmi eux, le Taporo 7, près d'un an après son naufrage, attend toujours un éventuel renflouement. L'armateur et l'assureur ne seraient pas d'accord sur la viabilité du navire. Le Taporo aurait tout de même été dépollué, mais fait toujours perdre une place à quai, raison pour laquelle la direction du port commence à hausser le ton, et pas seulement sur ce bateau d'ailleurs.
Il y a un inventaire des épaves qui est fait, des bateaux abandonnés, des bateaux en voie d'épavisation. Donc les propriétaires vont être très prochainement mis en demeure de les retirer. S'ils ne répondent pas dans les délais ou s'ils font la sourde oreille, quand ça empêche l'activité du port, on fera le nécessaire, ce sera refacturé aux propriétaires. Donc moi j'encourage tout le monde à vraiment prendre toutes les dispositions pour s'occuper de leurs bateaux qui ont été abandonnés.
Bran Quinquis, responsable de l'environnement au port autonome, il était au micro de Caroline Perdry.
Et ce chiffre, côté fait divers, 11 décès.
Oui, c'est le triste bilan de la mortalité routière depuis le début de l'année 2023, un chiffre qui inclut 4 personnes décédées en moins de 5 jours, enfin entre fin mars et début avril. Tous étaient des conducteurs de scooters et de motos, tous âgés de 28 à 38 ans. On vous avait parlé des 2 décès en scooter survenus les 28 mars et 2 avril à Paea. Eh bien, entre ces 2 drames, en ont eu lieu 2 autres. À Faa, d'abord le samedi 1er avril, quand un 50 cm cube SUV chute, a priori sans collision, sur l'avenue Nelson Mandela. Il est alors 3h du matin, son casque est mal attaché et l'homme est retrouvé inconscient par les secours. Il mourra un peu plus tard au CHPF. Quelques heures plus tard, en début de soirée, c'est à Rayatea qu'un autre scooter est cette fois percuté par une voiture. Son conducteur aurait vu à la dernière seconde le deux roues arriver en face de lui sur sa voie et sans éclairage. Malgré une embardée, il s'y accroche et là encore son casque est mal attaché. L'évacuation vers l'hôpital d'Uturoa puis vers le Taone n'aura pas permis de sauver la conductrice conductrice âgée de 34 ans. Au total, donc, la Polynésie déplore 11 morts d'accidents en 3 mois et demi. C'est un peu plus qu'à la même période en 2022, année pourtant déjà noire sur les routes de Polynésie.
De là, ils sont au palais de justice.
Une nouvelle affaire de trafic par voie postale a été jugée hier en comparution immédiate après qu'un homme se soit fait prendre au moment de retirer son colis à la poste. L'enveloppe arrivée tout droit d'Amsterdam contenait 10 grammes de méthamphétamine. Les précisions de Vaïtière Gobré.
Ce père de famille de 28 ans a expliqué que c'est un de ses bons amis installé aujourd'hui en métropole qui a eu l'idée de cette combine. En difficulté financière, il assure lui avoir demandé de l'argent et s'être vu proposer cette alternative. Cet ami, lui aussi, dont les affaires, a ainsi chargé un de ses contacts de poster l'enveloppe depuis Amsterdam. Un courrier qui a logiquement très vite éveillé les soupçons des douaniers. Déjà connu pour trafic de stupéfiants, l'homme a écopé d'une peine de 18 mois de prison et d'une amende douanière de 100 000 francs.
Le procès concernant l'affaire des 3,2 kilos d'ice retrouvés en février dernier à l'aéroport a lui été renvoyé au 11 mai prochain.
Une restitution à Papara.
Oui, celle du colloque Henri Adams et les mémoires de Harry Taimei qui avait eu lieu en février à l'université. Les organisateurs Florent et Carole Atem ont tenu à présenter publiquement les conclusions de ce colloque international à Papara sur les terres de l'ancienne chefesse du clan des Teva qui s'était confiée à l'historien américain en 1890. Rendez-vous donc le samedi 22 avril de 9h à 13h à l'école élémentaire Apatea de Papara. Donc.
Et puis on finit du côté de Moréa avec cette nouveauté ludique.
Le Sunny Park, c'est le nom du futur espace de jeu pour enfants qui ouvrira sur l'île Sœur d'ici quelques semaines. Une première à Moréa où beaucoup attendaient de longue date le lancement d'une structure commerciale destinée aux enfants. Ravaere Raouzi, elle-même maman d'une petite fille fana de ce genre de monde de mousse et de toboggan, y travaille depuis maintenant 4 ans. Elle est maintenant sur le point de concrétiser son projet à Maatea. On l'écoute.
Toute une surface plane où il y aura donc des, on appelle ça des structures tubulaires. Hein. Ce sont des structures sur lesquelles les enfants peuvent monter, s'amuser, se suspendre avec balançoire. On a également une belle surface quand même de piscine à balles avec une certaine hauteur. Du coup, lorsqu'ils iront sur les toboggans, la finalité c'est qu'ils tomberont entre guillemets dans toutes ces balles qui sont aussi aux couleurs de l'océan. Après, on a une petite zone d'air de jeu pour les petits de 1 à 3 ans.
Voilà, et on trouvera aussi entre les balançoires et les jeux muraux un écran géant pour les activités interactives ou bien pour les journées privées qui pourraient sortir organisé. Le Sunny Park doit encore trouver deux animateurs d'air de jeu avant d'ouvrir. Avis aux candidats donc. Le lancement des festivités est prévu pour début mai. Voilà, c'est la fin de ce journal, le dernier avant ce week-end électoral. Vous pourrez bien sûr suivre dimanche toute l'actualité et les résultats du premier tour des territoriales sur notre site internet radio1.pf et notre page Facebook Radio 1 Tahiti. Après ça, rendez-vous lundi matin pour un journal spécial résultat avec en plateau une des têtes de liste de cette élection. À bientôt sur Radio 1 et Tiale FM.
Merci beaucoup, Charlie.